Priez pour les frères, priez pour la guérison. Nous allons voir dans un premier temps combien il est important de se laisser habiter par l'Esprit Saint. Et dans un deuxième temps, nous parlerons de la guérison et de la prière pour les frères, et plus spécifiquement de la prière en binôme. Faire le choix de prier pour les frères, c'est avant tout se laisser habiter par l'Esprit Saint. C'est le socle, c'est le fondement. C'est vivre sous l'impulsion de l'Esprit, comme dit saint Paul. Se laisser habiter, ce n'est pas toujours évident. Tout va bien, on se sent bien dans la paix, et puis tout d'un coup, c'est l'orage intérieur. Dans une situation, je me rappelle, où j'essayais de rendre service, je ne me suis pas sentie reconnue, et cela a provoqué en moi de la colère, un sentiment d'injustice, parce qu'il y avait une personne qui accaparait toute l'attention par des plaintes incessantes. Et quand j'ai pris conscience des sentiments qui m'habitaient, j'ai fait un choix, celui de ne pas me laisser envahir par ces sentiments toxiques qui me perturbaient, et je me suis tournée vers Jésus. Je lui ai remis ma colère, ma rancœur, et j'ai prié un court instant dans la confiance, demandant à l'Esprit Saint de venir habiter en moi. Et la paix, la joie du Seigneur est revenue en moi. J'étais dans la louange, faisant mémoire de tout ce que le Seigneur avait fait dans ma vie, et j'étais même en mesure de prier pour les personnes qui avaient causé ma mauvaise humeur. C'est vraiment un combat permanent. Vous connaissez peut-être cette légende amérindienne. C'est le vieux Cherokee qui dit à son petit-fils, « Mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un, c'est le mal. C'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l'ego. L'autre, c'est le bien. C'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. » Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père « Lequel des deux loups gagne ?» Le vieux Cherokee répondit simplement « Celui que tu nourris. » C'est l'Esprit-Saint qui va me révéler qui je suis, que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour vivre avec lui une éternité d'amour. Il me donne le sens de ma vie. L'Esprit-Saint me révèle que Jésus est Seigneur et Sauveur. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est venu pour nous guérir, nous libérer, nous délivrer, et il nous annonce cette bonne nouvelle du salut par les signes et les prodiges qu'il accomplit. Jésus est venu nous guérir tout entier, corps, âme, esprit. Mais le but suprême, c'est notre salut. Être sauvé, c'est atteindre ce pourquoi nous sommes faits, partager la vie divine. C'est saint Thomas d'Aquin qui dit « Tu nous as faits pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Lorsque les amis du paralytique descendent la civière par le toit, Jésus commence à lui dire « Tes péchés sont pardonnés. » Scandale pour les Juifs, car il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Pour montrer qu'il a ce pouvoir, il dit « Lève-toi et marche », et sa parole s'accomplit. L'Esprit-Saint me guide et me donne l'équipement pour la mission. Et Jésus nous envoie aujourd'hui, à sa suite, comme il a envoyé ses apôtres et ses disciples, pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Après son départ, l'Esprit-Saint est envoyé sur toute chair. Ce n'est qu'en nous laissant habiter par l'Esprit-Saint, celui du Père, que nous pouvons poursuivre l'œuvre de salut de Jésus, parce que l'Esprit-Saint nous est donné. Me laisser habiter par l'Esprit-Saint, c'est un travail de chaque instant. Cela suppose une vie de prière personnelle et communautaire, se nourrir des sacrements, se nourrir de la parole de Dieu, entrer dans des chemins de pardon. Les pardons donné et reçu ouvre la porte à de nombreuses guérisons. C'est renoncer à toute forme de toute puissance, abandonner nos jugements et nos a priori, et refuser un sentiment d'indignité, qui peut être de l'orgueil déguisé, et se laisser revêtir par l'humilité. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans une situation plus que délicate sur un plan professionnel. Un hiérarchique m'avait traité de manière injuste et injustifiée. C'était incompréhensible pour moi. Je craignais vraiment pour ma place dans l'entreprise. J'ai demandé à quelques membres du groupe de prière de prier pour moi pour dénouer le problème. J'ai été invitée à louer le Seigneur et à bénir chaque jour ce hiérarchique qui me causait du tort. Ce qui n'était pas évident pour moi au début, je le faisais du bout des lèvres, mais j'ai persévéré. Et après 3 mois de louange, persévérante et confiante, et de bénédiction de cette personne, la situation s'est complètement débloquée, sans explication rationnelle. Lorsque je fais le choix de prier pour mon frère, je laisse l'Esprit-Saint couler en moi. Et lorsque j'accueille mon frère, je suis en mesure de le bénir, de dire du bien de lui. Je demande au Seigneur qu'il le comble de ses bienfaits. Accueillir mon frère, c'est préparer ma maison intérieure, comme pour accueillir un hôte de marque. C'est accepter de devenir canal, pour laisser couler l'eau vive. C'est accueillir mon frère comme un blessé de la vie, comme je le suis moi-même, avec les blessures du corps, de l'âme, de l'esprit, pour qu'il puisse recevoir la guérison que Jésus veut lui donner. C'est lui donner l'occasion d'une visitation. On va dire 2 mots de l'accueil des charismes. J'étais touchée cette semaine par la parole de Jean 10. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Lorsque je laisse la place à l'Esprit-Saint et que je lui ouvre la porte, j'accueille tous les charismes qu'il veut me donner comme cadeau que le Seigneur veut donner à mon frère. Les charismes, saint Paul nous en parle, notamment dans 1 Corinthiens 12, du parler en langue ou du chant en langue, de l'interprétation, de prophétie, de discernement des esprits, de la parole de sagesse, de science, d'enseignement, de guérison, d'opérer des miracles, de foi. Il y a aussi de nombreux autres charismes. Dans le groupe de prière où je suis, il y a eu, la semaine dernière, une parole de connaissance. Une souffrance et Jésus enlève une épine. Et cette semaine, une personne du groupe a témoigné qu'elle avait senti la nuit une forte chaleur dans le cou et qu'elle avait été guérie de douleurs récurrentes au niveau des cervicales, comme si on lui enfonçait une épine. N'oublions pas que nous sommes invités à demander des charismes au Seigneur et invités à les laisser se déployer en nous. Le discernement de nos charismes nous est souvent donné par les autres pour confirmer ce que nous ressentons en nous. Nous avons des tentations, c'est de nous croire indignes ou incapables et de nous dire « Oh, ce n'est pas pour nous ». Alors on peut se rappeler ce que fit saint François Xavier. C'était un grand missionnaire jésuite qui apportait l'Évangile en Extrême-Orient. Et dans une de ses lettres de l'Inde, il décrit ce qu'il a fait lorsqu'il a été assiégé par des demandes de visite et de prières pour les malades dans les villages voisins. Comme je ne pouvais y aller moi-même, j'ai envoyé des enfants en qui je pouvais avoir confiance à ma place. Ils allaient vers les malades, rassemblaient leurs familles et leurs voisins, récitaient le credo avec eux et encourageaient les malades à avoir une confiance sûre et fondée dans leur restauration. Après tout cela, ils récitaient les prières de l'Église.
Dieu a été ému par la piété et la foi de ses enfants et des autres,
et a rendu à un grand nombre de malades la santé de leur corps et de leur âme, comme il était bon pour eux. Il a fait de la maladie même de leur corps l'occasion de les appeler au salut, et les a attirés vers la foi chrétienne presque par la force. Les écrits des pères attestent que les miracles ont souvent été faits par des gens ordinaires, et c'est saint Irénée de Lyon qui donne un aperçu de ce qu'était le christianisme normal à son époque, au IIIe siècle. Les chrétiens font des miracles en son nom pour le bien-être des autres, selon le don que chacun a reçu de lui. Pour certains, vraiment chasser les démons, afin que ceux qui ont été purifiés des mauvais esprits croient fréquemment en Christ et rejoignent l'Église. D'autres ont une connaissance préalable des choses à venir. Ils voient des visions et prononcent des prophéties. D'autres encore guérissent les malades en imposant leurs mains sur eux et ils sont guéris. Oui, d'ailleurs, les morts ont même été ressuscités et sont restés parmi nous pendant de nombreuses années. Dans l'accueil des charismes, nous pouvons aussi avoir une autre tentation, celle de nous prendre pour une vedette, de nous croire tout-puissants et de nous prendre pour quelqu'un qui possède un pouvoir. La recherche d'un pouvoir, c'est le propre de l'ésotérisme, ce qui est à l'opposé de la démarche chrétienne. Alors demandons et accueillons les charismes que le Seigneur veut nous donner et demandons-lui de nous libérer de tout égocentrisme et de tout orgueil, et n'oublions pas que nous sommes prêtres, prophètes et rois par notre baptême. Et rappelons-nous que la charité est le point de départ de l'accueil et de l'exercice des charismes. On va aborder maintenant la guérison et la prière pour la guérison. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la guérison ? La guérison, elle concerne notre être tout entier, le corps, l'âme, l'esprit. Et nous savons que les trois sont liés. Et ce qui ne peut se dire avec des mots, M-O-T-S, se dit avec des mots, M-A-U-X. La guérison nous renvoie à la notion de souffrance. Elle peut être d'origine physique, une maladie, un accident, un handicap. Elle peut être d'origine psychique, maladie psychique, dépression, angoisse, ou liée à une situation douloureuse qui dure, dans une relation de couple, ou due à un enfant qui se drogue. Elle peut être d'origine sociale, chômage, isolement, ou d'ordre spirituel, révolte envers Dieu, ou difficulté dans la prière. Les souffrances peuvent venir du monde, d'un événement, d'une personne, ou de nous-mêmes, du fait de notre désordre intérieur. Les souffrances peuvent être enfouies au plus profond de nous-mêmes. Chacun va rencontrer une forme spécifique de souffrance et chacun va avoir sa propre route, son propre chemin de résurrection. Il est bon de préciser que la souffrance ne vient pas de Dieu. La souffrance n'est pas rédemptrice, c'est l'amour qui est rédempteur. La souffrance peut conduire à un repli sur soi, dans une réaction de survie, ou de l'agressivité, de la révolte. On ne se reconnaît plus, ça n'est plus nous. La souffrance touche à mon identité. Elle me désapproprie de mon existence. À l'inverse, la guérison me réapproprie mon existence. C'est moi, je retrouve de l'élan, de la joie de vivre. Je me souviens d'une période de ma vie qui était très très difficile, avec une grande souffrance morale qui a duré de longs mois. Et un jour, je me suis surprise à chanter dans ma voiture. J'ai pris alors conscience que j'étais dans une remontée. Le goût de vivre et la joie, même infime, revenaient. Être guéri, c'est être dans un itinéraire. Quelque chose a été surmonté. Et la guérison fondamentale, c'est d'être sauvé. Car notre blessure la plus profonde, c'est notre péché et notre rejet de Dieu. Jésus sauve du péché et de la mort. Nous sommes tirés d'un péril qui est d'être coupés de Dieu par le péché. La foi chrétienne, c'est la réconciliation avec Dieu. Chez les personnes que nous rencontrons, nous pouvons voir des obstacles à la guérison. Mais un obstacle majeur à la guérison, c'est un manque de pardon. Le pardon, c'est renoncer à retenir l'offense et laisser Dieu s'en occuper. Et lorsque l'on pardonne, on se libère déjà soi-même, et le pardon apporte la guérison. Je me rappelle, nous étions en binôme pour prier pour une personne, et le mot « pardon » est venu. Nous avons demandé à la personne si ce mot évoquait quelque chose pour elle, et elle a fondu en larmes, et nous avons pu prier pour qu'elle puisse entrer dans un chemin de pardon. Un autre obstacle peut être des péchés passés ou présents qui peuvent bloquer l'œuvre de guérison de Dieu. Ce peut être aussi des liens intergénérationnels malsains. Ce peut être des blessures intérieures qui demandent à être guéries. Et comme obstacle, il y a aussi toutes les influences occultes de toutes sortes qui polluent notre relation à Dieu. Il peut y avoir aussi une tentation du côté de la personne qui demande la prière, celle d'utiliser Dieu comme un super guérisseur ou un super thérapeute, et de vivre la foi comme un service médical ou thérapeutique. En fait, que cherche-t-on? Un mieux-être physique ou psychique, ou un essentiel qui va toucher le sens de la vie? Beaucoup de personnes veulent être guéries seulement physiquement. Mais Jésus veut beaucoup plus pour chacun de nous. Lorsque je prie pour la guérison de mon frère, j'évangélise. Et nous tous, baptisés, nous sommes invités à prier pour la guérison, à évangéliser. C'est Marie-Élie, qui était présidente de l'ICRES, qui dit « Aujourd'hui, le Seigneur Jésus rappelle qu'il est vivant, et ce qu'il a fait à l'époque, il le fait encore maintenant. C'est une redécouverte qui appartient à notre ADN. La puissance de l'Esprit-Saint et ses dons surnaturels comme équipement normal donné par le Seigneur ressuscité pour équiper tous les croyants baptisés pour leur mission évangélisatrice. Les gens d'aujourd'hui ont besoin d'une rencontre avec notre tout-puissant Sauveur, ébranlant la prison, brisant la chaîne, et guérissant, délivrant. Et le Seigneur revêt à nouveau ses enfants d'une puissance venue d'en haut pour les rendre capables d'apporter sa bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. La prière pour la guérison, c'est l'annonce du règne de Dieu. C'est l'appel à vivre dans la charité fraternelle. L'Esprit a pris le relais du Christ. Évangéliser, c'est présenter Jésus vivant. C'est amener la personne à une rencontre personnelle avec le Seigneur, l'amener à une expérience extraordinaire. C'est créer un espace où cette rencontre pourra se faire, afin que la personne puisse dire comme saint Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu ». Qu'elle puisse être baignée tout entière dans l'amour, la miséricorde, la tendresse de Dieu, quel que soit son péché. Au fond, quand on aime quelqu'un, c'est ce qu'on souhaite pour lui. Le Christ accomplit des guérisons pour attester que le règne de Dieu est au milieu de nous, et nous demandons au Christ des guérisons comme signe de salut aujourd'hui, signe de la miséricorde du Père. L'Évangile est appelé à être reçu par des signes et des prodiges. Ce ne sont pas nos prières qui guérissent la personne, mais la puissance du Seigneur par le nom de Jésus et l'onction du Saint-Esprit envoyée par le Père. L'annonce du règne de Dieu, les miracles, la libération des liens du mal et le pardon des péchés sont indissociables. Jésus connaît le besoin de salut. La maladie, la souffrance peuvent être une occasion de se poser la question du sens de la vie, une occasion de se tourner vers le Seigneur et lui demander « Que veux-tu me faire comprendre à travers cette souffrance, cette maladie, cet événement ?»
Il est intéressant
de regarder les guérisons dans les évangiles et voir combien elles sont actuelles. Jésus a opéré des guérisons multiples qui ont été réelles, mais que l'on peut aussi regarder comme des métaphores. Voir les maladies comme métaphores pour parler de la séparation d'avec Dieu et les guérisons pour manifester ce que Dieu fait pour son peuple au plan spirituel. Jésus calme la mer, nos tempêtes intérieures. Jésus nourrit les foules. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Jésus ouvre les yeux des aveugles. Jésus est lumière, il nous fait voir avec ses yeux. Jésus délie les langues pour annoncer le règne de Dieu. Jésus ouvre les oreilles pour nous laisser habiter par l'Esprit Saint. Jésus guérit de la lèpre, celle de notre péché. Jésus fait marcher pour nous attacher à Dieu. Ta foi t'a sauvé. Tout est possible à celui qui croit, dit Jésus, et il nous le redit aujourd'hui à chacun de nous. Le salut est la guérison fondamentale. Jésus, ce nom veut dire Dieu guérit, Dieu sauve. Le salut, c'est pouvoir vivre une éternité d'amour avec le Seigneur. Le salut commence ici sur terre, lorsque nous disons oui à Jésus, qui nous a ouvert la porte du ciel par sa mort et sa résurrection. Le salut, c'est chaque fois que nous revenons à lui, que nous nous réconcilions avec lui et avec nos frères, chaque fois que nous remportons une victoire sur le péché, chaque fois que nous sortons d'un enfermement. C'est chaque fois où nous pouvons goûter à l'intimité avec Jésus. C'est un cheminement quotidien en nous laissant guider par l'Esprit Saint. Le salut a de multiples facettes et les personnes que nous allons accueillir vont exprimer cette recherche de guérison, de libération, par ces différentes facettes, ces différentes portes. À propos d'une libération, d'un enfermement, je pense à une personne que j'ai vue tout récemment, qui a été licenciée pour faute grave, un choc brutal auquel elle ne s'attendait pas du tout. Et depuis plus d'un an, elle s'enfonce dans la dépression, minant sa santé et celle de son entourage. Elle est dans un procès juridique violent, s'acharnant à faire reconnaître son innocence. Elle est dans un enfermement toujours plus profond. Mais à un moment donné, elle aura un chemin de deuil à faire, un long chemin, où elle sera invitée à déposer sa haine, sa rancœur, et entrer dans un chemin de pacification et de pardon. Le chemin sera peut-être long, mais ce qui importe avant tout, c'est l'aujourd'hui, c'est de faire un tout petit pas, d'en faire l'un après l'autre. Et notre rôle est d'accueillir la personne et peut-être l'aider à faire ce tout petit pas. À propos de guérison physique, spectaculaire ou non, il y en a aussi de nombreuses aujourd'hui à travers le monde, et je vous renvoie au livre de Damien Stein, « Renouvelle tes merveilles ». Damien Stein a un ministère d'enseignement et de prédication, accompagné de guérisons, signes et merveilles. Mais je pense qu'il y a parmi vous certainement beaucoup de personnes qui pourraient aussi témoigner de guérisons, soit qu'elles l'ont vu, soit qu'elles ont vécu. Nous allons évoquer à présent la prière en assemblée pour la guérison. C'est une prière d'intercession par la compassion de Jésus. Nous sommes le corps du Christ et nous avons à prendre soin les uns des autres. Le temps de l'assemblée de prière est le moment favorable pour le salut. C'est un temps de vérité. On se place dans la vérité de son existence devant le Seigneur. Ceux qui prient pour la guérison sont comme les porteurs du paralytique. Prier pour une personne qui souffre, c'est la porter devant le Seigneur, l'exposer à son regard. C'est la personne qui connaît son besoin, et c'est l'Église qui le demande. L'Église a un charisme d'intercession. Et en tant que priant, nous avons la certitude que le Seigneur agit en fonction du besoin de la personne. Il peut, ou non, donner une guérison visible et passer, ou non, par les priants. L'Église se rassemble et Jésus agit. Et notre rôle est de nous laisser faire, sans se mettre aucune pression. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Comme dit saint Paul, sa grâce suffit, car sa puissance se déploie dans la faiblesse humaine. Lorsqu'il y a une guérison physique, qu'elle soit instantanée ou progressive, on peut la voir comme un signe prophétique que Dieu sauve. C'est Jésus qui manifeste sa présence parmi nous. Lorsque la prière n'est pas exaucée, Jésus nous invite à persévérer. Si nous persistons, le Seigneur pourra commencer à modifier nos désirs pour qu'ils s'accordent à sa volonté et lèvent peu à peu les obstacles spirituels ou psychologiques avant une guérison physique. Lorsqu'il y a des guérisons miraculeuses, nous pourrions être tentés de les mettre en avant pour prouver que Dieu existe. Ce serait instrumentaliser la grâce de Dieu. Le miracle n'est pas une preuve. C'est une reconnaissance dans la foi. C'est une invitation à croire. Le charisme de foi, c'est accepter que l'action de Dieu reste invisible. C'est aussi accepter qu'il n'y ait pas de résultat tangible. La foi est une réponse à une invitation, à un signe. Lorsqu'il y a paix et consolation, l'Esprit Saint est là. Le Seigneur ne donne pas toujours ce que l'on lui demande, mais il donne toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Il répond toujours à nos prières à sa manière. Évoquons maintenant la prière des frères en binôme. La prière en binôme, ce n'est pas un accompagnement spirituel. Dans un accompagnement spirituel, nous amenons la personne à comprendre le sens de ce qu'elle vit, et cela demande du temps. Dans la prière des frères en binôme, c'est un accueil et un temps de prière qui dure très peu de temps, ce sont quelques minutes. Avant l'accueil, les priants confient au Seigneur leur temps, ils mettent leur esprit, leur cœur, leur sens à la disposition du Saint-Esprit. Ils font une prière de protection pour eux et leurs proches. Ils définissent entre eux qui conduit la prière. Dans un deuxième temps, c'est l'accueil. On accueille la personne avec un infini respect. On ôte notre sandale devant la terre sacrée de l'autre. Nous nous mettons dans un état d'esprit de vainqueur en prenant position sur la victoire de Jésus. Comme dans le combat de David contre Goliath, Jésus est vainqueur du mal et du péché, et Dieu, de toute façon, répondra à notre prière comme il voudra et quand il voudra. Nous accueillons la personne dans son mystère, avec le cœur et la compassion de Jésus. C'est lui qui parle au cœur de la personne. Nous ne sommes qu'un canal. Troisième temps, c'est l'écoute. Nous demandons à la personne « Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ?» Nous nous concentrons sur ce que dit la personne et non pas sur nos impressions. Par ailleurs, ne confondons pas nos propres émotions avec une motion de l'Esprit-Saint. Il y a un discernement à faire. La personne exprime sa demande ou ne l'exprime pas. Et si la personne formule sa demande, nous reformulons pour s'assurer que l'on a bien compris. Le quatrième temps, c'est la prière. Nous commençons par une prière de bénédiction et d'action de grâce pour la démarche de la personne, pour sa vie. Nous prenons un petit temps de prière, sachant que nous prions toujours au nom de Jésus. Nous présentons au Seigneur la demande de la personne, ce qu'elle a confié ici et maintenant. Nous prions aussi intérieurement. Nous proposons ce que l'on reçoit intérieurement. Ce peut être en référence à l'Évangile, ou une prière, une parole, une image, mais sans être affirmatif. Nous lui proposons simplement ce que nous avons reçu et lui demandons si cela évoque quelque chose pour elle. Rappelons-nous que nous recherchons ce qui va être le plus bienveillant pour la personne et restons toujours dans un état d'esprit de bénédiction. Surtout, on ne donne pas de conseils et on ne fait pas de morale. Nous ne nous mettons pas non plus à la place de la personne. C'est elle qui a la réponse au fond d'elle-même. On termine la rencontre même si on a l'impression que rien ne s'est passé. On a la certitude que l'Esprit-Saint agit. Si deux ou trois personnes sont réunies au nom de Jésus, le Seigneur répond, et ce, dans l'ordinaire de nos vies, comme dans l'extraordinaire. C'est lui qui sait, c'est lui qui agit. Ce n'est pas nous, et la réponse lui appartient. Et on clôt avec des paroles de bénédiction. Pensons par exemple à Jean. « en vérité, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. » Et dans Corinthiens, « au moment favorable, je l'ai exaucé. »